voir comment nous pouvons aider les familles à assumer ce rôle d'éducation chrétienne de leurs enfants. Alors, premier point, j'ai appelé l'éveil à la foi les plus qu'il était. Je crois que c'est important de faire un bref rappel historique et de voir comment est-ce que les choses ont bougé. Avant que le terme éveil à la foi n'apparaisse, l'ensemble de l'éducation chrétienne était globalement à la charge des familles. Je situe ça dans un contexte déjà un peu ancien, c'est-à-dire plus d'une centaine d'années. Donc la transmission se faisait en famille et la transmission se faisait aussi par un tas de structures et scolaires et sociales, ce qui fait que la famille venait apporter un point de cohérence et de complément. Mais il y avait donc toute une transmission qui se faisait par de multiples sources. Et puis au fur et à mesure de phénomènes qu'on en connaît bien, de déchristianisation, de sécularisation, etc., les familles ont eu du coup une charge en termes de transmission de la foi qui devenait de plus en plus grande pour pallier à ce que l'école ou la société ne prenait plus en charge. Or, dans le même temps, on s'est trouvé avec des parents qui étaient de moins en moins en capacité d'assumer, et encore moins du coup d'assumer un écart de plus en plus important. Alors, à un moment, dans les années, on va dire, autour des années 1950, mais c'est vraiment à gros traits, a commencé donc à se développer l'idée que l'institution ecclésiale pouvait venir en aide à ses parents. Et dans un premier temps, elle l'a fait dans une logique un peu de substitution, je dirais. Et ça a arrangé tout le monde. Nous avions des parents qui disaient « on ne sait pas faire » et une institution qui disait « nous, on sait faire ». Alors, ça a donné, c'est un peu caricatural mon propos, mais c'est pour pouvoir montrer la façon dont les choses ont évolué. Donc, ça a donné la création de groupes d'éveil à la foi qui étaient ouverts uniquement aux enfants. Et donc là où les parents étaient tout à fait contents dans leur logique de souci, de transmission, de tout ce qu'il y a de mieux pour leur enfant, de pouvoir déléguer cette partie de l'éducation à des gens tellement compétents, qui font ça tellement bien alors que moi je ne sais pas. Et pour l'institution, c'était aussi une forme de sécurité de se dire, bah, au moins, tant que les enfants, tant que les parents viennent à l'éveil à la foi, au moins on s'assure qu'il y a quelque chose qui va leur être transmis et une forme de sécurité de la transmission. Et au bout de quelques années, il y a eu, peut-être aussi parce que les parents ont évolué, une forme de lassitude et d'insatisfaction de ce fonctionnement-là. Une lassitude du côté de l'institution qui a commencé à se dire « Oui, mais alors, en fait, les parents s'en fichent, ils déposent leur enfant, ils vont faire leurs courses, ils sont bien contents, ça fonctionne comme une garderie, ça ne les intéresse pas du tout, en fait, ce qu'on fait. Enfin, » là, ça, c'est des propos que j'ai déjà entendus, ce qu'ils n'inventent pas. Et d'autre part aussi, une lassitude de la part des parents qui se sont sentis déconnectés de ce qui se passait là pour leur enfant. Parce qu'entre 3 et 7 ans, un enfant ne raconte pas. Il donne des bribes, mais il n'est pas dans un récit organisé de ce qu'il a pu vivre. Et donc les parents se sentaient mis à distance. Et donc, de ce point de vue-là, était venu le moment de procéder autrement. Et je trouve que du coup, ces évolutions de part et d'autre amènent à ce que j'appelle aujourd'hui un contexte favorable. Un contexte favorable pour de nouvelles façons de procéder. Donc ces éléments congruents, à la fois un désir des parents de vivre quelque chose avec leur enfant. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose de récurrent dans le propos des parents. Ils veulent avoir des moments dans leur rythme de vie tellement morcelé, tellement effréné, ils veulent absolument avoir, particulièrement pendant le temps du week-end, c'est plus facile en tout cas pour le vivre avec le papa et la maman, un temps où il y a quelque chose qui se vit. Alors c'est vrai que certaines familles, il va y avoir une dominante, par exemple, extrêmement sportive, qui va être plutôt favorisée, dans d'autres familles peut-être la musique, ou des jeux de société, des promenades, mais on sent en tout cas chez ses parents le souci d'avoir des moments forts de vécu avec leur enfant. D'autre part, ces jeunes parents auxquels je pense, donc parents d'enfants de 3 à 7 ans, ça vous donne des jeunes adultes entre, on va dire, vraiment 30 ans pour les plus jeunes, hein, si on regarde ça avec l'évolution de la naissance des premiers enfants, jusqu'à, on va dire, c'est les 30-40 ans, pour faire le plus simple. Ces jeunes parents-là sont donc, eux, aujourd'hui, dans une situation de... Alors, le mot, je n'ose pas dire le mot que j'ai écrit ici, je vais dire quand même, de désert spirituel, c'est un peu fort. Mais en tout cas, ils sont d'une génération qui, au niveau de du parcours catéchétique qu'ils ont pu avoir, ont eu assez peu d'apports quand ils étaient enfants, à 30 ou 40 ans. Et aujourd'hui, donc, ils ont peu d'assises pour être en situation de transmettre quelque chose à leur enfant. Et en même temps, ils ont de véritables désirs et des soifs. Quand je vous dis ça, ce n'est pas un vœu pieux de ma part. En fait, j'aimerais tant qu'ils aient des soifs que du coup je vais vous affirmer qu'ils en ont. Si je peux me permettre de dire ça, c'est pendant 6 ans et demi, j'ai été jusqu'au mois de septembre, donc c'est encore suffisamment récent dans mon parcours, j'ai été membre du service national de la catéchèse et du catéchuménat, donc un service la conférence des évêques de France, et dans ce service, j'étais responsable de l'espace familial. À ce titre-là, j'ai passé donc 6 ans et demi à parcourir de nombreux diocèses pour des rencontres de formation, pour des échanges divers et variés. Et donc, c'est le fruit de ces 6 ans-là qui me permettent de dire voilà les genres de parents que j'ai rencontrés et voilà ce qu'ils disent, en tout cas. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous comme ça. Et ceux que j'ai rencontrés disent ça, et je crois que c'est important aussi que ça résonne à nos oreilles, qu'on ne soit pas juste dans une vision pessimiste. Alors justement, pas de vision pessimiste, et ça c'est un choix que moi je fais, un présupposé évangélique et bienveillant, à l'égard des parents. Je suis frappée souvent d'entendre comment la société, l'école, pose sur les parents un regard extrêmement critique. Et on épingle sans arrêt leurs manquements et leurs défaillances. Ça, bah, il suffit que vous ouvriez n'importe quel journal, n'importe quelle radio, et le chapelet de tout ce qui ne va pas dans la façon de faire des parents arrive immédiatement. D'autre part, il y a une forte pression sur la nécessité de réussir. Et ça m'a fait sourire de voir que dans le terrain que nous avons dans notre chemise, donc faisons confiance à nos enfants, c'est gros titre, et que vous avez un petit sous-titre, conseil pour une éducation réussie. C'est très sympa, hein, qu'on nous donne des conseils. Sauf que l'injonction, c'est, il faut que tu réussisses l'éducation des enfants. Il faut que tu réussisses ta vie de couple, et en plus, si tu veux quand même tenir la route, il faut en plus que tu sois un homme et une femme épanouie. Là, on pourra commencer à discuter. Donc, c'est une pression extrêmement forte et qui s'exerce sur ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent dire, comment il faut habiller ses enfants, qu'est-ce qu'il faut dire à ses enfants, comment il faut répondre à leurs questions, etc., etc. Et rarement, en tout cas trop rarement à mon goût, on entend parler de ce que désirent les parents, de leurs aspirations, etc. Donc, ce qui a conduit à aller à leur rencontre, donc dans un document que j'ai réalisé pour le service national, donc c'est un hors-série d'une revue qui n'existe plus, mais ce hors-série est encore disponible. Ça s'appelle « L'espace familial, un lieu où s'éveille la vie de foi ». Et ce dont je vais beaucoup vous parler, c'est du film qui se trouve à l'intérieur, il y a un DVD avec un film. Et donc, je me suis promenée dans 6 diocèses, et qui ont été vraiment pris au hasard. Hein. Voilà, j'ai appelé les responsables de la catéchèse, et qui m'ont dit, oui, ben, tu peux venir tel jour à telle heure, ou je peux t'organiser une rencontre avec deux parents qui sont venus à une fête du Cézanne pour les familles. Voilà comment ça s'est fait. Pourquoi je vous dis ça? C'est pour vous montrer que ce ne sont pas des parents modèles qui ont été triés sur le volet et qui correspondraient à un profil exactement recherché pour entendre ce que j'avais envie d'entendre. C'est pas comme ça que les choses se sont passées. C'est parce que j'ai entendu ce que j'ai entendu là que du coup, j'ai pu élaborer ce que maintenant je vous dis. Alors, j'ai synthétisé ça en récapitulant ce que je constate que les parents attendent. Et on va rentrer dans l'explication de ça. Juste, petit point aussi pour être lucide, il y a un écart entre ce que les parents demandent, parce que la première demande qu'ils font lorsqu'ils vont s'adresser à M. Curé ou à un responsable du CATÉ pour demander une inscription à l'éveil à foi, une inscription d'été, pour demander le mariage alors qu'ils ont déjà des enfants, pour demander un baptême, une première communion, des funérailles, ce que vous voulez. Les mots qu'ils emploient lorsqu'ils font cette demande sont ceux de leur vocabulaire. Et que là, il y a un acte. Moi, j'ai tendance à le vivre comme un acte de foi en la richesse de l'homme, qui est que derrière ces mots qui sont maladroits peut-être, il y a quelque chose comme une face immergée d'un iceberg qui dit leurs attentes, leurs aspirations. Et c'est ça, moi, que j'avais envie de repérer, c'est cette face cachée de l'iceberg, même si les mots qui se disent sont maladroits. Je vais vous donner un exemple. Les parents arrivent donc dans un propriétaire, demandent le baptême pour leur enfant et disent « Oui, vous comprenez, en plus, il faut absolument que ce soit le dimanche 15 mai parce que j'ai déjà réservé le restaurant. » Ça, c'est presque du vécu, hein, mais d'accord. Il y a plusieurs lectures à ça. Et je vais en donner deux, mais je pense vraiment qu'on pourra en faire. Première lecture, du responsable pastoral épuisé, qui en a assez que ce soit le restaurant qui dicte le chemin sacramentel et qui du coup se décourage vraiment. C'est des demandes sociologiques, les parents n'ont rien à faire, la seule chose qui les intéresse c'est la vie de famille. Vous pouvez bien imaginer tout ce qu'on peut accrocher là et qu'on a pu probablement peut-être les uns et les autres sentir dans des situations comme ça. Autre réaction possible, un jour où on est en forme et on a du temps, vous voyez, je mets des précautions quand même, c'est du coup d'avoir un temps de dialogue, un dialogue pastoral avec ses parents suffisamment long, qui va permettre de faire émerger qu'est-ce qui fait qu'ils sont venus demander le baptême, alors que la plupart des jeunes de leur génération ne le font pas. Et que même aussi quand ils disent, vous comprenez, on vient demander le baptême, c'est juste pour faire plaisir à la grande. Je veux bien, je suis ravie qu'il veuille faire plaisir à la grand-mère. Sauf que, il y a 4 ans, quand la grand-mère souhaitait qu'ils se marient avant d'habiter ensemble, ils sont passés par-dessus le désir de la grand-mère, la plupart du temps. Pourquoi est-ce que là, ce désir de la grand-mère-là est entendu et les a conduits jusqu'à faire la démarche de venir frapper à la porte du presbytère? Donc vous voyez, c'est pour vous faire percevoir dans quelle démarche je me situe et pourquoi on va pouvoir découvrir ce qu'on découvre maintenant. C'est que ce n'est pas ce qui émerge de façon évidente. C'est ce qu'il faut aller chercher à l'issue d'un dialogue pastoral et à l'issue d'un présupposé profondément bienveillant. Alors peut-être un tout petit peu, comment dire, un peu naïf peut-être. Eh bien, à t'en faire, je préfère ça. Alors voilà, ce qu'ils désirent, ce qu'ils cherchent, c'est des mots. C'est-à-dire, quand ils viennent passer du temps pour une démarche sacramentelle, pour une fête d'éveil à la foi, pour un pèlerinage des familles, pour tout ce que vous voulez, ils vont être heureux de récupérer du vocabulaire qui va leur permettre de parler de Jésus, de la Bible, de la foi, dans la vie quotidienne de la famille, et d'être un peu moins désemparés face aux questions de leur enfant. Parce que la plupart des questions que pose leur enfant, ce sont les leurs. Parce que les questions d'un enfant entre 3 et 7 ans, c'est des questions existentielles. C'est pourquoi on meurt, pourquoi il y a des gens malheureux, pourquoi on ne s'aime pas toute la vie, pourquoi il y a des gens qui sont méchants. Alors, ces questions-là, elles ne sont pas du tout simples, et c'est rare que dans nos vies d'adultes, nous puissions dire « Attends, mon garçon, pas de souci, j'ai tout compris de cette question-là, je vais t'expliquer. » C'est pas comme ça. Ça nous renvoie, nous aussi, à des questions qui sont de l'ordre de l'existence pour nous aussi. Les parents souhaitent des temps, enfin des temps, je veux dire des moments. Voilà ce qu'ils disent. Ils souhaitent avoir du temps pour être avec son enfant. qui donne envie, c'est aussi des temps festifs, à vivre ensemble en famille. Ça fait rupture avec le quotidien de la vie. Du coup, on peut se poser, on peut s'arrêter. Un besoin de respirer aussi. Des moments de paix et de bonheur. Vous sentez bien sûr que ça correspond à ce qui n'est pas dans le quotidien de la vie, forcément, c'est évident. Des temps qui favorisent du coup une mémoire de ce qui a été vécu ensemble et dont on va pouvoir reparler. Et ça, par exemple, ça fait écho à ce que je disais quand on fait une proposition à un enfant et on le prend sans ses parents, et bien du coup, on rend ce dialogue après absolument impossible. Et puis, ils veulent aussi des temps qui suivent un rythme pas trop lourd, parce que il n'y a pas qu'éducation chrétienne dans leur vie. Ils sont obligés de répondre à de multiples sollicitations. Et j'ai été très frappée d'entendre des parents dire, voilà, nous, trois rencontres dans l'année, quatre rencontres dans l'année, c'est bien pour nous. Parce que justement, en plus, ils en reparlent entre eux. Et du coup, ça, ils peuvent s'engager sur un temps comme ça qui est un peu morcelé. Nous, on accepte qu'effectivement, ils ne s'engagent pas à venir à la messe le dimanche. Donc, ces lieux aussi, voilà ce qu'ils en attendent, de la convivialité, de l'échange, des lieux où la famille est accueillie et reconnue comme elle est, sous-entendu, quel que soit le statut et la composition de la famille. Ils ont aussi très soif de rencontrer d'autres familles. Pour trouver d'autres parents, certains emploient naturellement le mot communauté. Des lieux pour parler de leurs préoccupations de parents. Et je pense là très fortement à tous ces lieux de parole qui existent et qui se développent, parce que quand on parle entre parents de préoccupations de parents, ça permet infiniment d'abord de se sentir comme tout le monde. Ah, toi aussi, ton enfant, il t'a dit que. Qui ne voulait plus à l'école, moi je pensais que c'était quelque chose de dramatique que mon enfant ait dit ça, et de savoir que ça peut être une phase à un moment, ou de penser que tiens, tous les parents presque ont été confrontés un jour à l'enfant qui dit Dieu, j'y crois pas. Ah bon, je pensais que c'était. J'avais tout raté avec l'éducation chrétienne puisque mon enfant m'a dit ça. Alors, toute cette relativisation qui se passe lorsqu'on échange entre parents. Des lieux pour poser la question existentielle. C'est-à-dire que beaucoup de parents arrivent, par exemple, un dimanche diocésain, fête des familles, voilà, selon le diocèse, les vocables sont très très différents. Ils viennent sous couvert d'accompagner leur enfant. Parce que là, du coup, on a toute cette dignité, moi je viens pour mon enfant. Mais alors, au passage, tout ce que je vais pouvoir récupérer qui va me parler à moi-même de ma propre, de mes questions de foi, de mes doutes, de mon propre chemin, je vais l'absorber. Mais officiellement, d'abord, je viens pour mon enfant. Et puis donc, des lieux d'accueil de la part de l'Église, sentir qu'on est à sa place, quelle que soit sa vie personnelle. Je repense à une maman que j'ai interviewée dans le diocèse de C, qui dit que sa petite fille était invitée par la marraine à la rencontre diocésaine, qu'au bout d'un moment, elle s'est dit tiens, pourquoi pas moi ? Alors moi, du tac au tac, je lui dis, mais il y a quoi derrière ce « pourquoi pas vous ?» Et elle me dit, je pensais que je n'avais pas ma place dans l'Église. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu. Et ça repose quelquefois sur rien, même pas sur un statut matrimonial problématique, même pas. Simplement, une forme d'éloignement qui fait que les parents se disent, ben, non, c'est pas pour moi, j'ai pas ma place. Ils attendent de l'aide. Du coup, pour reparler avec les enfants ce qui a été vécu ensemble, quand ils quittent, par exemple, une rencontre parent-enfant avec un support qui fait office de mémoire et qui fait office de support de dialogue, c'est très précieux pour les parents. Ils attendent de l'aide pour l'éducation chrétienne de leurs enfants. Des idées simples pour vivre la foi au quotidien à la maison. Alors là, j'ai listé des petites choses. Alors, ils ne disent pas qu'ils demandent ça, hein. On est bien d'accord, mais ils disent, voilà, quand on a entendu parler des rituels du lever du coucher des champs, ça c'est précieux pour nous. Donc, des petites idées, comment est-ce qu'on peut réveiller son enfant en chantant une chanson, par exemple, qui est déjà dans une dynamique d'action grâce à l'éclat. comment conduire un temps de prière du soir, tout petit, tout simple, qui fait suite à par exemple, une mise en pause sur les événements importants de la journée avec son enfant. Un chant, faire un temps de prière, vous allez dire, après, c'est basique. J'ai vu les parents repartir tout joyeux en se disant que j'avais jamais pensé qu'on pouvait faire un temps de prière à la maison. Alors, il y a des choses qui, pour nous, maintenant, on a l'impression que c'est des évidences, et alors, apparemment, je constate que ça ne l'est pas. Et puis, ils attendent aussi un encouragement. Ça fait écho à ce que je vous disais sur toutes ces options critiques qui sont prises à l'égard des parents, hein, par l'école et par la société. Et que moi, je trouve ça important que dans l'Église, on puisse nommer avec eux et pour eux ce que nous appelons les tiers d'attente pour l'Évangile. Je m'explique. Il y a de nombreuses familles qui, de façon naturelle, vivent des choses extraordinaires. Mais si personne ne leur dit jamais c'est extraordinaire, c'est dommage. Je pense par exemple des familles pour qui l'hospitalité de l'étranger ou du pauvre ou de celui qui est de passage coule de source. Voilà. Et ça ne pose pas de question, on a toujours fait comme ça. De toute façon, quand j'étais enfant, mes parents faisaient comme ça, donc moi forcément j'ai reproduit, c'est normal. Alors, et vous me dites que ça a quelque chose d'évangélique, ça? D'autres familles, par exemple, vont avoir une pratique du pardon en famille assez étonnante, avec des choses qui sont parfaitement en place sur, à la fois dans les conditions psychologiques du pardon, et puis dans la dimension spirituelle, mais ils ne vont pas nommer Dieu. Ça va être pareil aussi pour une dimension d'action de grâce, par exemple. Alors, c'est ça ce que j'appelle les tiers d'attente de l'Évangile, c'est des choses qui font partie de la vie familiale, et il manque ce petit pas supplémentaire qu'on peut faire avec les parents, qui va révéler combien c'est éminemment évangélique, ceux qui le vivent. Voilà. Et ça, c'est des choses qui deviennent très structurantes pour la vie d'une famille, et qui du coup aussi sont des appels à déployer de plus en plus ce qui est intuitif au départ. Et donc, ils sont preneurs de démarches, qui soit nourrissante aussi pour eux, pour leur foi d'adulte. C'est-à-dire que si vous réunissez des parents et des enfants et qu'on ne leur parle, enfin, on ne s'adresse qu'aux enfants de 4 ans, comme on parle à un enfant de 4 ans, eh bien, les adultes, au bout d'un petit moment, vont s'ennuyer. Ça paraît assez logique. Donc il faut que dans une journée ou dans une démarche un peu plus longue, il y ait des choses qui soient aussi pensées pour eux. Si ça paraît évident, ce que je vous dis, je peux vous assurer que sur le terrain, ce n'est pas simple, parce que la plupart aussi des personnes qui sont en responsabilité au niveau de l'évêque à la foi ont peur de ça. Ils disent, nous sommes à l'aise pour parler aux enfants, nous avons le sentiment de ne pas savoir parler aux adultes, ou d'avoir peur de parler aux adultes. Voilà, donc là, en termes de formation, il y aura des choses qui seront à caler pour que les gens qui ont pris l'habitude de ne parler qu'à des enfants puissent avoir un langage qui s'adresse aussi à un groupe, aussi à leurs parents. Donc des démarches qui leur permettent de se rapprocher eux-mêmes aussi de l'Église et de la foi. Et ça, ils le disent clairement. Ils disent, voilà, en venant avec mon enfant aux rencontres trimestrielles de l'Église et de la foi, je me suis rendu compte que je me rapprochais de l'Église. Des démarches de qualité, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps. Eh bien, ce qui ne fait pas sens pour eux, ce qui n'est pas directement utilisable et pas intéressant, il n'y a pas le temps. Et donc, ce sera discrédité et disqualifié. Et puis, donc, des démarches qui les rendent participants à la foi de l'Église. Hein, donc, des gestes, des mots simples. Et là, ce qu'il y a derrière, c'est tout ce qui est lors de la prière liturgique de l'Église. Voilà. Donc, ceci change pour moi, une fois qu'on a listé tout cela, pour moi ça change profondément la donne. Et à partir du moment où j'avais fait ce repérage-là, je n'ai jamais plus pu parler de propositions à faire envers les parents de la même façon. Parce que tout ce que je les ai entendu dire, qui a du sens pour eux, que je vous ai listé, devient pour moi des choses qui sont des points essentiel lorsque je veux faire une proposition pastorale en direction des familles. Alors, lorsqu'on lit le texte national pour l'orientation de la catéchèse en France, j'ai lu qu'il était à la librairie, ça ressemble à ça. C'est le document donc, de la conférence des évêques de France qui donne une orientation, hein, dans le sens de, qui donne le sens, hein, la direction, pour toutes les propositions catéchétiques au sens large, et des propositions catéchétiques pour les familles, aussi du coup, enfin, s'enracinent aussi dans ce texte-là. Alors quand on lit ce texte, voilà, c'est le document dont je vous parlais tout à l'heure, la c'est pas grave, c'est une jolie décoration. Donc quand on lit le texte national pour l'organisation de la catéchèse en France, je voudrais pointer deux choses. Une que j'ai déjà explicitée, c'est les tiers d'attente pour l'Évangile. Le texte est vraiment excessivement clair là-dessus. Il demande aux responsables pastoraux d'avoir ce souci-là, de valoriser dans les familles tout ce qui est de l'ordre des tiers d'attente pour l'Évangile. Et le texte les cite, hein, justement, sur l'hospitalité, sur le pardon, sur le souci de l'autre, du plus petit, sur le service. Hein. Tout ceci se vit déjà en famille, mais qui est à valoriser. Et deuxième mouvement extrêmement important que pointe le texte national, c'est celui de l'engagement des paroisses. Alors ça, c'est pareil, c'est extrêmement novateur qu'un texte comme celui-ci dise « les paroisses doivent s'engager ». Le discours habituel, c'est « les parents doivent s'engager ». D'accord, c'est ça qu'on a l'habitude. Madame, monsieur, vous êtes venu demander de baptême pour vos enfants, donc vous prenez un engagement de l'éduquer dans la foi chrétienne. C'est le rituel du baptême qui dit ça. Donc on est bien d'accord, et c'est souvent uniquement ce mouvement-là qui est mis en avant. Et là, le texte national dit, on ne peut pas demander aux parents de s'engager comme ils le font dans la démarche baptismale, par exemple, sans que les paroisses s'engagent à leur côté. Et ça, c'est quelque chose, je trouve, d'extrêmement important. C'est que c'est un mouvement de correspondance. Il y a les parents qui s'engagent de leur côté. Et du coup, avec eux, à leur côté, pour eux, les paroisses sont aussi invitées à s'engager. Et là, je vous lis un extrait du texte. Il dit, il est bon que la paroisse s'engage elle aussi. À les écouter, à les aider dans leur recherche, à les accueillir dans les discussions, à les aider en cas de problème. La paroisse peut contribuer à élargir le seul cercle familial en favorisant la rencontre et le partage entre les familles, en aidant les parents à accueillir les questions quand elles arrivent, en formant les jeunes adultes à découvrir et à prendre en compte les enjeux d'éducation de leurs enfants, en aidant les parents à se familiariser avec ce que vivent leurs enfants. C'est extrêmement ambitieux, extrêmement ambitieux. Alors vous allez me dire, bon, c'est très bien, alors c'est un texte, les évêques rêvaient peut-être ce jour-là où ils l'ont écrit, mais de toute façon, on n'a pas les moyens, on ne peut pas, on n'est pas assez nombreux, de toute façon, on ne sait pas comment faire. Alors c'est pas vrai. Quand les paroisses s'engagent, eh bien, des mises en œuvre concrètes existent déjà. Heureusement, sinon, effectivement, ce serait pas durable. Alors, je me suis permise de lister. Je n'ai pas, dans le travail que j'ai fait, je vous avoue que je n'ai pas tenu compte particulièrement du diocèse de Strasbourg. J'ai vraiment plutôt plongé dans l'expérience de ma rencontre avec on va dire, les deux tiers des diocèses de France. Alors, il existe des rencontres parents-enfants. Je vous ai juste mis des petites images, je prise au fur et à mesure des reportages que j'ai pu faire. Alors, les rencontres parents-enfants existent parfois en paroisse, parfois en doyenné. En général, c'est une journée, peut-être même une demi-journée parfois. Ça permet un temps de convivialité, la rencontre entre parents, voilà, pour retrouver des choses hein, que les parents pointent comme précieux pour eux. Il y a ce qui me semble aussi important dans ces journées-là, souvent un moment de participation à la prière de l'Église. Et donc là, il y a une imprégnation justement avec les gestes de la foi. Quand je dis la prière de l'Église, entendons-nous bien, je ne me limite pas à la célébration de l'Eucharistie. Ça peut être d'autres formes. Ça peut être la prière, la liturgie des heures, ça peut être une liturgie de la parole, ça peut être une lectio divina, et dans lequel on va trouver ce lieu d'imprégnation aussi avec des gestes et des mots de la prière de l'Église. En général, dans ces rencontres-là aussi, il y a une forte place donnée à l'écoute d'un récit biblique. Alors ça, c'est extrêmement important pour tout ce qui constitue la mémoire de la foi. Et pour la plupart des parents, c'est une découverte autant que pour leurs enfants. Et si j'ai dit, enfin, le récit en plus, c'est important comme façon de transmettre la parole de Dieu. Hein. On n'a pas le temps de développer là, mais voilà, c'est pas simplement une lecture liturgique. C'est du raconté qui peut aussi passer par de l'image, avec des ateliers à la suite du récit, etc. C'est des petits bretons qui étaient venus faire le départ du pèlerinage du Puy-en-Velay, en famille. Et avec là des parents qui disaient, des jeunes parents, je commençais une maman une trentaine d'années, là avec ses deux jumelles, et qui dit, ben voilà, moi le pèlerinage, je crois que c'est important. Je ne l'ai jamais fait quand j'étais enfant, et voilà, j'ai vu cette invitation, je me suis dit, j'y vais. J'ai fréquenté beaucoup la danse. Ah non, je ne vais jamais à la messe. Voilà. Vous voyez des choses qui sont étonnantes, qui font sens d'un seul coup pour des parents. Encore faut-il qu'ils croisent ce type de proposition. Deuxième chose qui existe déjà, on appelle des dimanches autrement. Selon les diocèses aussi, c'est pareil. Hein. Il y a des vocables très différents. Dimanche parole en fête, dimanche famille, tout ce que vous voulez. Ce qui est important dans ce genre de proposition, vous retrouvez la même chose, hein, des structures fondamentales avec un temps d'écoute de la parole de Dieu, avec un temps de prière de la liturgie de l'Église, avec des moments aussi d'atelier. Ce qui me semble très intéressant dans cette proposition-là, c'est la dimension intergénérationnelle. Parce que ce viennent, et là c'est pareil, je ne vous parle pas comme un rêve, je vous parle de ce que j'ai vu, des gens viennent quelquefois, du coup, avec les grands-parents. Ils ont dit, mais tiens, on s'est dit que ça ferait plaisir aux grands-parents, alors on les a invités. On a invité quelquefois aussi un parrain, une marraine. Et on étend, parce qu'on sait que c'est ponctuel, parce qu'on sait qu'on ne sera pas après pris dans un engrenage où il faudra, parce que ça, pour des jeunes parents, c'est pas tenable. Là, ils savent qu'ils viennent un dimanche et qu'ils ne sont pas tenus ensuite d'être dans un engagement plus précis. Ce qui fonctionne aussi, vraiment ce qui m'a frappé dans tous les témoignages que j'ai entendus, c'est que beaucoup d'organisateurs disent, alors on a invité très largement, comme le propose le texte national, c'est-à-dire on a invité les parents des enfants qui sont gâtés à l'éveil à la foi, tous les jeunes parents qui ont demandé par exemple un sacrement, toutes les familles qui ont eu un deuil, tous ceux qui ont été fiancés, une façon d'inviter très très large. Et puis, la plupart du temps, les organisateurs disent, on attendait 100 personnes, il y en a eu 300. Voilà, c'est ce rapport-là qui est marquant le plus souvent. Moi, je pense aussi que pour des familles, lorsqu'elles se sont invitées personnellement, pour un temps comme ça, qui se raccroche avec quelque chose qui a fait partie de leur vécu, puisqu'il y a eu, oui, c'est vrai que voilà, on a été contents de la préparation au baptême, on a été contents de l'accueil qu'on a eu lorsqu'on a été demandé les funérailles pour la grand-mère. C'est des points comme ça de contact positif avec la paroisse et la communauté chrétienne que les parents du coup sont contents de pouvoir poursuivre. Voilà, ça c'est un moment de récit biblique justement dans un dimanche autrement. Et ça c'est un hymne ça, vous voyez, je vous emmène loin. C'était un chemin, je crois que c'était un chemin de carême. Troisième chose qui existe hein, et qui se développe de plus en plus aujourd'hui, alors j'ai regroupé ça sous le terme de soutien à la parentalité. Ça prend des formes très différentes. J'ai rencontré ça par exemple dans l'enseignement catholique, avec des propositions faites aux parents, hein, et Pierre, je ne sais pas ce que tu disais sur la fin de ton intervention, voilà, des établissements qui se saisissent de cette question-là et qui font des propositions aux parents. Je repense aussi à un diocèse qui a formé tous ses accompagnateurs éveillés à la foi en les faisant participer à des sessions avec l'école des parents. Voilà, donc, de façon à les former à cette écoute fine des questions que portent les parents. Voilà, ça, là, on est vraiment dans une prise en compte d'un soutien à la parentalité. Et au niveau des mouvements, je vous parle plutôt de ce que je connais bien. Donc c'est la proposition qui existe chez les sous-équipes de France qui s'appelle les Farfadets. Pour ceux qui connaissaient avant, ça vient de la fusion entre les Saravandes et les Farandoles. Depuis qu'ils ont uniquement fusionné, ça s'appelle les Farfadets. C'est donc une proposition pour les enfants de 6-8 ans. Et alors, ce qui est intéressant, c'est le document officiel. Cette proposition faite aux familles permet de donner à des parents un lieu de rencontre avec d'autres parents. Ça me dit quelque chose. Permet de reconnaître aux parents leur rôle d'éducateur et leur permet de retrouver ce plaisir gratuit, jouer, vivre, rire avec leur enfant. Après, là, on est dans quelque chose de spécifique qui est une initiation au scoutisme. Ce qui me semble très intéressant, c'est que donc des mouvements, probablement, il faudrait aller voir par exemple dans le Mège, je ne sais pas parce que je ne connais pas assez bien, mais je pense que de plus en plus, les mouvements vont avoir ce souci-là, d'aider les parents dans l'exercice de leur fonction parentale. Autre chose qui existe, un magazine, L'Homme d'Avis Soleil. Alors, c'est pas de la pub, je ne suis absolument pas sponsorisée par Bayard, c'est juste que j'ai été conseillère religieuse pendant 6 ans à L'Homme d'Avis Soleil et que forcément, quand on travaille autant avec une revue, eh bien, on a un petit bout de son cœur et je trouve que le travail qui est fait à L'Homme d'Avis Soleil est vraiment très intéressant. Depuis donc environ 6 ans, c'est une formule qui part de questions. Question existentielle des enfants. Quand on meurt, est-ce qu'on va au ciel? Mais c'est des questions aussi qui sont plus de l'ordre éducatif. Quand est-ce que je serai grand? Pourquoi est-ce qu'on est jaloux? Pourquoi est-ce qu'on est parfois gentil, parfois méchant? Des questions très très diverses. Et la structure même dont est fait le magazine permet un cheminement pour les parents avec leur enfant. C'est vraiment un objet de dialogue. Parents-enfants, qui est de ce point-là, je trouve, très réussi, qui part à chaque fois d'une question de la vie, et puis ensuite, on avance doucement dans un questionnement plus philosophique, avec des images symboliques, et puis ensuite, on découvre un texte biblique, à la suite duquel il y a une conversation entre un parent et des enfants, et là, quand nous, on concevait le magazine, et ça n'a sûrement pas changé depuis 6 mois, dans cette conversation, on essaye du coup d'imaginer les questions qui vont mettre les parents en difficulté, de façon à ce que pour le parent qui lit l'histoire avec son enfant, bien là, il y a déjà des éléments où il va se sentir moins perdu. C'est comme si un peu on lui donnait la main en disant « Tu peux rentrer dans cette conversation-là avec ton enfant, voilà, tu peux lui dire ça et puis tu peux aussi lui dire comme ça. » Et puis, dernier point qui existe et qui me semble une façon très très intéressante aussi d'accompagner les parents dans l'éducation chrétienne de leur enfant. C'est un livre qui s'appelle donc En famille avec Dieu. J'ai vu aussi qu'il était ici. Ça sera l'objet de l'atelier demain matin. Je parlerai uniquement de ce livre-là. Et comme tout le monde n'a pas cet atelier, je vais vous en dire un petit mot. C'est un livre qui est donc écrit par les 4 évêques de la commission épiscopale de la catéchèse et du catéchuménat. C'est une demande qui était déjà dans le texte national, où les évêques disaient qu'il faut qu'il y ait des outils pour accompagner les parents. Et donc les évêques de la CECC se sont dit, nous on y va. On relève le défi de concevoir cet outil-là. Donc c'est un livre qui est prioritairement destiné aux parents qui ont fait une demande de baptême pour un enfant entre 0 et 7 ans. Pourquoi je dis entre 0 et 7 ans? C'est parce qu'après 7 ans, l'enfant est dans une démarche, lui, de... il change déjà de rituel, c'est un rituel des enfants en âge de scolarité. Autant il faut l'accord des parents, mais ce n'est pas forcément la demande des parents. Alors qu'avant 7 ans, c'est la demande des parents. Ce livre s'adresse aussi aux parents qui demandent le mariage alors qu'ils sont déjà constitués en tant que famille. Et il s'adresse aussi, je pense, à des catéchumènes adultes qui vivent aussi en famille. J'en disais un mot avec l'un d'entre vous ce matin. Je suis un peu plus réservée sur le fait d'offrir ce livre à un couple qui se marie n'ayant pas encore d'enfants. Alors, c'est une réserve Peut-être que, alors d'abord, c'est pas comme ça qu'on fait la promo d'un livre en disant qu'il faut pas l'ouvrir là. Mais c'est parce qu'en fait, c'est pas le public cible, dans la mesure où la présence des enfants est très importante dans les témoignages des familles, par exemple. Et je pense que quand on se marie et qu'on n'a pas encore d'enfants et qu'on se dit, On ne veut pas encore d'enfants tout de suite, on a fini nos études, on veut voyager, etc. Je pense qu'on ne rejoint pas à ce moment-là les préoccupations d'un jeune couple. Je pense qu'il y a un temps pour tout, mais c'est un veto, hein, de toute façon. Après, un livre, ça a une vie propre. Et... Donc ça, c'est public cible. La spécificité de ce livre, c'est la structure qui va, c'est-à-dire qu'il est construit à partir des questions existentielles. Il y a plusieurs façons de dire à des jeunes parents comment est-ce qu'on peut parler de la foi. On aurait pu faire une présentation beaucoup plus structurée, je dirais par un propos un peu catéchétique ou dogmatique, et on aurait fait un chapitre sur le pardon, un chapitre sur les paraboles, un chapitre, vous voyez, enfin, vous imaginez que ce serait bien, il y a énormément de livres qui suivent cette structure-là, et c'est très bon qu'il y en ait. Nous avons fait le choix de faire articuler donc des questions existentielles, parce qu'on s'est dit c'est par là que les parents ont de l'intérêt. La question c'est est-ce qu'on peut s'engager pour toujours? Comment est-ce qu'on fait pour choisir? Des questions lourdes sur le sens de la vie, voilà, des choses comme ça. Et puis, nous posons le fait que l'Église n'est pas en dehors de ces questions-là. L'Église est travaillée de la même façon que tout le monde par ces questions-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'Église n'est pas sans ressources pour les traverser. Et vous entendez bien, je ne dis pas pour y répondre, mais pour les traverser, pour les penser. Parce que je crois que ce serait dommageable de clore une question sur comment fait-on pour choisir en disant « pas de souci, nous dans l'Église, on a toutes les réponses et on va vous expliquer comment faire pour choisir ». Ce n'est pas notre démarche, c'est de dire que, voilà, quand on est confronté à cette question, comment faire pour choisir, nous ne sommes pas sans ressources et nous ouvrons avec vous le trésor de la tradition, à la fois dans l'écriture, dans la liturgie, dans la tradition de sainteté, dans l'art, etc. De façon à mettre tout ça en résonance et de voir qu'effectivement, eh bien, choisir devient à ce moment-là une question avec un enjeu vital et un enjeu catéchétique. Et c'est ce chemin-là que l'on vous propose de vivre avec les parents. Donc tout ceci pour dire que le souhait des évêques, qu'effectivement les paroisses s'engagent pour proposer aux parents des choses qu'eux-mêmes disent qu'ils souhaitent, parce qu'il y a une concordance étonnante entre ce que les évêques disent. Il est important que les paroisses s'engagent pour donner aux parents des lieux où ils vont se rencontrer, des lieux où ils vont pouvoir... exister en tant que parents, dans leur rôle d'éducateur, dans leur rôle d'éducateur de la foi. Et en même temps, les parents qui disent, voilà de quoi nous avons besoin. Il y a une concordance étonnante entre ces deux propos-là. Donc c'est pour ça que moi, je un moment de congruence vraiment intéressant. Et donc, ne soyons pas des fétistes ou découragés avant même de commencer, puisque des choses sont déjà en germe, je pense chez vous comme partout. Même si, voilà, peut-être que c'est seulement une ou l'autre chose qui est déjà en germe, et je trouve que ça donne infiniment d'espérance pour la suite, et que de ce point de vue-là, aussi bien pour l'âge des enfants, aussi bien que pour les forces pastorales en présence, eh bien, il n'est jamais trop tôt pour bien faire.
Alors maintenant, je vais inviter, c'est le père